Après avoir enregistré un podcast qui s'intitulait « Vous n'êtes pas ce que vous ressentez », puis un autre qui disait que vous n'êtes pas ce que vous faites, voici le troisième de la trilogie qui s'intitule « Vous êtes ce que vous pensez ». Je m'appelle Pascal Kionkion, votre coach thérapeute, et je suis avec vous toutes les semaines pour vous accompagner pour que vous viviez votre vie en mieux. Alors c'est parti! Bonjour à vous, je suis ravi que vous soyez là présent pour ce rendez-vous aujourd'hui qui se vivra en deux parties puisque je ne voudrais pas faire trop long. Sur ce sujet, vous êtes ce que vous pensez. En effet, comme je l'ai dit dans l'introduction, deux rendez-vous sur lesquels je vous ai dit ce que vous n'êtes pas. Et je sais qu'il y a eu des retours intéressants sur ces deux rendez-vous parce que certains avaient l'impression de faire corps avec leurs émotions en disant « je suis en colère, je suis triste ». Or, nous avons appris que ce n'est pas comme ça. Si vous n'avez pas écouté ce rendez-vous, allez l'écouter. Et puis, certains disent « voilà, je suis ce que je fais parce que quand je fais une bêtise, je suis con et quand je fais quelque chose de génial, je suis brillant ». Et là également, un travail de dissociation est intéressant à pratiquer. Allez écouter le rendez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, comme dans les deux rendez-vous que je viens de mentionner, on est contraint, quand on est face à cette réflexion sur le fait que vous n'êtes pas ce que vous pensez, de se retourner vers le fonctionnement du cerveau. Et notamment, première information, peut-être que vous la connaissiez déjà, mais mieux vaut enfoncer les portes ouvertes, le cerveau ne peut pas traiter plusieurs pensées à la fois. Alors ça, c'est une excellente nouvelle. Après, combien de pensées avons-nous par jour, par heure, par semaine, par mois? Voilà quelques chiffres qui sont issus d'études dont je vais vous mentionner quelques sources. Mais d'abord, voici les chiffres. Nous avons en moyenne 6000 pensées par jour, ce qui fait 42 000 pensées par semaine ou 180 000 pensées par mois, ou 2 160 000 pensées par an. Ça nous ramène à 6,5 pensées par minute et 380 pensées par heure. Pour être un peu plus précis, on est à peu près à une pensée toutes les 5 secondes pour avoir 6 pensées et demie par minute. Vous vous rendez compte que finalement, nous pensons beaucoup. Après cela dit, comme j'ai dit tout à l'heure, j'enfonce une porte ouverte parce que vous aviez remarqué que vous pensiez beaucoup. Certains d'entre vous ont même l'impression d'être tout le temps en train de penser à plein de choses en même temps, etc. En fait, on ne pense pas à plusieurs choses en même temps. C'est une pensée après l'autre. Et il y a une constellation de pensées avec des connexions interpensées, si on pourrait dire, qui font que, ayant pensé à ça, on va penser à une autre chose, puis à une autre chose, puis à une autre chose. On n'a pas un système de pensée qui est linéaire, avec point 1, point 2, point 3, point 4. Imaginez plutôt les pensées en forme de constellation, avec des lignes qui les rejoignent les unes aux autres, avec une cohérence permanente. Et c'est intéressant de rappeler que certaines personnes qui ont l'impression qu'elles sont changées de sujet, je dis un truc, moi ça n'a rien à voir avec ce que j'ai dit avant. Si, ça a à voir avec ce que vous avez dit avant. Ça a systématiquement à voir avec ce que vous avez dit avant, même si un centième de ce que vous allez dire seulement à avoir avec ce que vous avez dit avant. Mais ça a forcément à voir puisque le cerveau fonctionne de manière cohérente. Et cette réalité n'est pas sans avoir d'impact sur nos émotions. Parce que si vous avez un collègue qui, par exemple, a un comportement qui ne vous satisfait pas, vous avez l'impression qu'il est pénible, qu'il est gonflant, qu'il est casse-pied, etc., c'est forcément parce que vous avez vécu quelque chose antérieurement et que vous utilisez le collègue en question pour raviver des situations émotionnelles ou des pensées qui sont corrélées à ces événements antérieurs. Le collègue n'y est sans doute pour rien. Et là, je rejoins Don Miguel Ruiz qui dit « N'en faites pas une affaire personnelle ». Lao Tzu, philosophe chinois, avait pleinement conscience de la puissance et de l'importance de nos pensées au point qu'il a dit que si vous corrigez votre esprit, le reste de votre vie se mettra en place. Fin de citation. On est donc dans une réalité dans laquelle on a une puissance colossale en main dès qu'il s'agit des pensées. Bien entendu, c'est valable pour les émotions. Donc vous imaginez que le cocktail pensée-émotion, qui va déboucher sur les actions, et d'une puissance que nous avons tendance à sous-estimer. Nous avons parfois tendance à donner l'impression que nous subissons nos émotions, enfin nos pensées et nos émotions. On les a pas choisies, c'est comme ça, je pense comme si, je fonctionne comme ça, j'agis comme ça, je n'y peux rien. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que vous avez tort. Et je sais que c'est pas forcément agréable d'avoir tort, mais c'est un fait. Vous avez tort parce que vous pouvez agir sur vos pensées, ce qui conduira un changement sur vos ressentis émotionnels, donc vos émotions, par conséquent sur vos ressentis corporels, sensoriels, et sur vos actions. En réalité, vous avez un pouvoir en main que vous sous-estimez. Je voudrais vous demander, avant de continuer ce podcast, s'il vous plaît, ne sous-estimez plus ce pouvoir. Vous avez conscience que vous êtes en train de passer à côté d'une frange de votre vie, ou deux franges au pluriel de votre vie, parce que vous avez l'impression de vivre dans une sorte de mécanisme automatique de fonctionnement. Voilà, je ressens ça, je pense ça, je ressens ça, et donc je fais comme ça. Je rappelle juste que c'est l'ordre, hein, pensée, émotion, action. Avant, on a valeur, croyance, pensée, émotion, action. Donc, on est dans cette impression, quoi. Là, on subit le flot comme vivrait un tsunami. Quand je ressens le tsunami de mes émotions, eh bien, je passe à l'action, quoi. Je pète un câble, je pleure, je tape du poing sur la table, je crie, je m'en vais, je rougis, j'en ai marre, je quitte le lieu. Et je ne me rends pas forcément compte que c'est en relation avec mes pensées. On est donc bien en amont des émotions. Par conséquent, si vous travaillez sur vos pensées, j'allais dire que vous investissez dans vos pensées, je m'arrêterai là-dessus pendant ce podcast, c'est une manière de dire que vous allez investir dans votre vie. C'est également valable si vous choisissez d'investir dans vos émotions. Seulement, vous avez compris que vos émotions prennent racine, prennent nourriture dans vos pensées. Mieux vaut donc travailler sur ses pensées que sur ses émotions, puisque l'émotion vient en aval. Pour poursuivre, je voudrais m'arrêter sur la manière dont nous gérons nos pensées. Une grande part de nos actions sont programmées par nos pensées et émotions. Ça veut donc dire que une grande part de nos émotions sont programmées également. Si je remonte à l'échelle au-dessus, le grade au-dessus ou en amont, cela a donc pour conséquence de m'éclairer sur le fait que un bon nombre de mes pensées, de nos pensées, sont automatisées, programmées. On appelle ça l'auto-traitement des pensées. L'auto-traitement des pensées a de nombreux avantages, notamment le fait de nous procurer la sécurité. Grâce à l'auto-traitement des pensées, on n'aura pas besoin de réfléchir en permanence à l'éventuelle menace, à ce qui peut se produire, et aux risques que l'on encourt quand on est en train de se promener sur le trottoir pour aller au boulot, quand on est en train de jouer dans la forêt ou de faire du vélo, ou de cuisiner. Si on n'avait pas un auto-traitement des pensées, on serait en train de marcher dans la rue, pour reprendre le premier exemple que j'ai évoqué, avec une sorte de radar visuel, à veiller à ce que tout comportement qui pourrait être légèrement inquiétant, différent de ce qu'on pourrait attendre, soit signe de menace, et par conséquent provoquer un déclenchement d'émotions et d'actions. La fuite, l'attaque ou le figement. Les trois attitudes liées à l'émotion de peur. L'auto-traitement des pensées qui génère ce sentiment de sécurité est donc relatif à l'émotion de peur. Elle va donc en amont limiter le déclenchement de l'émotion de peur. Toujours en relation avec l'émotion de peur, au demeurant, ce phénomène d'auto-traitement des pensées favorise le confort parce qu'on est dans quelque chose de connu, puisque ça a été tellement connu qu'on l'a automatisé. On n'a donc plus besoin d'analyser quelque chose pour savoir si ça va être brûlant, si ça va être coupant, ça va être dangereux, si ça va être solide. Quand vous vous asseyez sur une chaise, vous ne vous dites pas « je vais vérifier si la chaise est suffisamment solide avant de m'asseoir ». Quand vous allumez votre téléviseur, vous ne vous dites pas « je vais l'allumer, mais cette fois-ci, est-ce qu'il va fonctionner ? Je me le demande ». Vous êtes dans un auto-traitement de pensée qui fait que, même au niveau alimentaire, quand vous allez manger une courgette, vous n'allez pas vous dire « mais quel goût ça doit avoir, ce truc-là ». Grâce à l'auto-traitement, vous êtes dans un confort relatif à quelque chose que vous connaissez, ce qui a pour conséquence l'économie d'énergie. La nature, comme le corps humain qui fait partie de la nature, a une mission annexe, mais mission quand même présente, qui consiste à utiliser le moins d'énergie possible, et mieux encore, à produire davantage qu'il ne consomme. Ça, c'est un système qui est proche de la nature et qui fait que les scientifiques s'arrachent les cheveux pour réussir à mettre en place un mécanisme qui produise davantage qu'il ne consomme. Je sais qu'aujourd'hui, c'est la tendance pour les véhicules électriques. Alors, on est tous contents, on va mettre des véhicules électriques, tout ça, parce que c'est bon pour la planète. C'est surtout bon pour la politique, parce que pour la planète, ça n'est pas bon du tout. C'est un véhicule qui demande beaucoup plus d'énergie à la fabrication et qui, en plus, le jour de sa destruction, demandera de consommer encore énormément d'énergie pour réussir à le faire partiellement disparaître, parce qu'il n'existe pas de disparition complète des batteries que nous sommes en train de fabriquer pour mettre dans les véhicules. Or, la nature a cette capacité, à partir du moment où on sort du faire humain, donc de la fabrication humaine, mais qu'on est dans la création, de produire davantage qu'elle ne consomme. D'ailleurs, même quand on est dans la création humaine, sur le plan artistique, on retrouve cette dimension, c'est-à-dire quand on a une œuvre d'art, qu'importe le temps qui a été imparti pour la mettre en œuvre, à partir du moment où elle est achevée, elle va profiter davantage qu'elle n'a consommé initialement. Donc dès qu'on sort de l'industrialisation et qu'on est dans la création, que ce soit de la nature ou même la création fabriquée par l'homme, on se retrouve dans quelque chose qui va essentiellement se rapprocher de ça, et je dirais essentiellement dans le domaine artistique. Fermez la parenthèse. Je poursuis sur l'autotraitement. L'autotraitement est un excellent moyen pour gagner du temps, pour se protéger, parce qu'il nous permet d'éviter de nous reposer la question en permanence et de nous remettre en insécurité en permanence, de favoriser le confort et de ne pas avoir à réfléchir à la solution qu'il nous faille trouver pour manger une soupe, se dire est-ce que je prends une cuillère, une fourchette, je bois au bol, comment ça se passe, pour aller se laver, pour manger une salade, pour savoir comment enfiler un pantalon, comme si on est réinventé, mais comment je vais faire pour faire ça, j'ai plus à me poser de questions pour savoir comment je vais me raser sans me couper, enfiler un tampon périodique ou attacher un soutien-gorge, même conduire un véhicule fait appel à un autotraitement qui fait qu'on n'a plus à réfléchir. Répondre à son enfant quand il nous pose une question. Manger, je dis manger, mais aïe aïe aïe. Ça peut malheureusement mettre en évidence un des inconvénients de l'autotraitement, parce qu'on peut ne plus se poser des questions quand il s'agit de manger, de se droguer, de se soumettre, et même dans des fonctionnements délétères dans lesquels on va s'abîmer. Et c'est là que on a tout intérêt à recommencer à être conscient de ce à quoi on pense et de sortir de l'autotraitement. Donc oui, l'autotraitement procure une sécurité, un confort, une économie d'énergie et tout ce que j'ai mentionné jusqu'à maintenant, avec en même temps le risque de nous maintenir dans une zone de confort, comme on aime bien le dire ces dernières décennies, zone de confort dans laquelle on devrait être dans l'inconfort. Je partage avec vous une citation du docteur Simon, professeur de psychiatrie clinique et du comportement au collège de médecine Albert Einstein, et qui dit que si nous pouvons apprendre à être plus conscients de ce que nous pensons dans des situations qui nous dérangent, nous pouvons nous mettre en position de changer ce que nous ressentons dans ces situations. La conscience, la pleine conscience. Mais qu'est-ce que la pleine conscience d'ailleurs ? La pleine conscience est un état d'attention active et ouverte au présent. C'est un état qui décrit la capacité d'observer ses pensées, ses sentiments, sans les juger comme bons ou mauvais. Ça veut dire qu'on va les regarder, les observer, en prendre connaissance. Je ne suis pas en train de chercher à développer une sorte de philosophie bizarre. Non, on est vraiment sur une observation de soi qui est promue par toutes les écoles de psychologie pratique, comportementale, approche de coaching et de thérapie, qui promeuvent des exercices dans le but d'apporter un changement et d'un changement efficace. Pour vous dire, je suis convaincu qu'il n'est pas possible d'apporter un changement réel et factuel sans pleine conscience. Nous avons besoin de passer par un moment où l'on s'observe, où l'on prend connaissance de ce qu'on est en train de vivre pour essayer de comprendre, de le lire sans jugement, de le lire comment on lirait un événement complètement nouveau qui n'a pas du tout de connexion possible avec le champ émotionnel expérimenté jusqu'alors. Or, vous ayant parlé de l'autotraitement, vous comprenez tout à fait la raison pour laquelle je vous dis ça. Parce que, étant donné que nos pensées sont autotraitées pour la plupart, que nos émotions sont donc autotraitées puisque nos pensées le sont, nos actions sont donc autotraitées. Il n'est donc pas possible d'envisager un changement, quel qu'il soit, sans prise de conscience sur la situation dans laquelle on se trouve, sur les raisons pour lesquelles on est en train de vivre ce que l'on vit, que ce soit sur le plan émotionnel, factuel, donc des actions ou des pensées. Quelque part, nous avons besoin de faire pause pour comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça, d'autant plus que face à un événement, il peut y avoir de multiples manières d'agir et de réagir. On parle justement d'intelligence émotionnelle quand face à un événement, en espérant qu'un enfant a été éduqué dans cette direction-là, eh bien l'enfant se rend compte qu'il est possible d'avoir plusieurs attitudes possibles, plusieurs ressentis possibles et non pas forcément une seule voix. Quand un enfant rentre à la maison et dit à son parent qu'il a été frappé dans la cour de l'école, si son parent lui dit « si tu as été frappé, eh bien tu frappes en retour », l'enfant comprendra ou intégrera qu'il n'y a qu'une seule voie possible face à une souffrance, à une réalité émotionnelle mal vécue. Alors que si le même enfant revient à la maison et dit « on m'a frappé dans la cour de l'école » et que le parent lui pose des questions pour savoir « qu'est-ce qui s'est passé ? Comment l'as-tu vécu ? Qu'est-ce que tu pourrais faire ?» et qu'il perçoive cet enfant qu'il y a une option A, une option B, une option C, une option D et qu'en plus on l'invite à dire quelle est celle qui te paraît la plus pertinente, bien vous comprenez qu'il est en cours d'éducation d'intelligence émotionnelle parce qu'il découvre qu'il n'est pas automatiquement tenu d'agir de telle manière face à un tel événement, mais qu'il a un choix. D'ailleurs, permettez-moi un exemple. Un homme baisse la vitre dans la rue et siffle une femme qui passe. Ah, j'arrive pas bien à siffler là. Bon, je suis un stagiaire, comme vous pouvez le constater. Alors la femme, et pour illustrer l'exemple, on va supposer qu'il y a trois femmes qui vivent la même situation. La femme numéro une pense... C'est pénible ces mecs lourdeaux, ça me gonfle d'entendre des mecs qui sifflent comme ça, bref. En supposant que c'est bien elle qui est sifflée par l'homme. La femme numéro 2 pensera à une touche de plus, la troisième depuis le début de la semaine. Et puis la femme numéro 3 pensera « Où est la nana qui se fait siffler là? Ça peut pas être moi. » Vous voyez que dans cet exemple, avec le même événement, trois femmes différentes ont trois pensées différentes. J'en ai pris trois parce que je ne peux pas vous en faire 54. Mais si on prenait une centaine de personnes, on pourrait se rendre compte que sur 100 personnes qui vivent la même situation, il n'y en a pas beaucoup qui vivent cette situation de la même manière, avec les mêmes pensées. On pourrait s'amuser devant un amphi à leur demander d'écrire ce qu'ils pensent de ce qui s'est passé et se rendre compte qu'il y a, oui, quelques convergences, mais qu'il y a d'énormes différences. Ce qui détermine la réaction, comme l'émotion, est lié aux pensées. Nous l'avons dit depuis le début. Pourquoi ces femmes pensent-elles différemment face au même événement ? Parce que l'événement, en soi, est neutre. Je vous renvoie vers le rendez-vous « Le mystère des émotions ». La lecture de l'événement fait donc toute la différence, puisque l'événement est neutre. La responsabilité, ou plutôt la lecture de l'événement, relève de la responsabilité de chacune de ces femmes. Elles ne sont pas conditionnées par le même milieu, parce qu'elles n'ont pas la même éducation, pas la même vision, et par conséquent, pas la même manière de réagir. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans une fratrie, quand on a des frères et des sœurs, on n'a pas forcément vécu le même conditionnement, la même préparation, et donc on ne vit pas le même autotraitement des pensées, ni même le même autotraitement des émotions, etc. Tournez-vous vers votre frère, votre sœur, et posez-leur la question de la manière dont ils ont perçu tel et tel comportement de votre mère, de votre père, peut-être de votre oncle, de votre prof, si vous êtes dans la même classe. Et vous verrez qu'il y a des différences colossales entre les uns et les autres. Seulement, nous pouvons prendre la mesure à partir du moment où l'on choisit de sortir de l'autotraitement pour prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, la pleine conscience de ce qui est en train de se produire dans nos pensée. Donc on peut, à partir de là, et seulement à partir du moment où on va vivre cette pleine conscience, commencer à porter des changements dans ses pensées. Comment vivre cette pleine conscience ? Avec ce que j'ai communément appelé, moi, l'installation de caméra. Ça veut dire que face à un événement donné, je suis conscient d'être sur la scène de l'événement, en train de le vivre en direct, et j'invite à ajouter des caméras, on va dire, dans la salle, comme si c'était sur une scène de spectacle sur laquelle je suis en train de jouer ma vie. Donc, je vais mettre une caméra dans la coulisse, je vais mettre une caméra sur la scène, bien entendu, une caméra exactement à l'endroit de mes yeux, dans mon regard, et puis je vais mettre plusieurs caméras dans la salle. Alors, pourquoi tant de caméras ? Alors, plusieurs caméras dans la salle, parce que comme je viens de le dire, si je posais la question à 100 personnes dans un auditorium de savoir ce qu'ils ont lu et compris et ressenti et pensé d'un événement qui s'est passé sur la scène, eh bien, j'aurais 100 perceptions, 100 pensées différentes. Par conséquent, et quand je dis 100, peut-être que c'est un minimum. On peut dire, il peut y en avoir 80, parce qu'il y en a quelques-uns qui auront des pensées assez similaires. Et encore, si on creuse vraiment sur le plan scientifique, même si les pensées sont apparemment similaires, on se rendra compte qu'elles sont différentes, parce que chacun, même s'il a pensé la même chose en surface, n'a pas pensé la même chose au fond de lui, parce qu'il n'a pas le même parcours de vie, les mêmes expériences et les mêmes ressentis émotionnels que son voisin. Hein, si on dit à deux personnes qu'est-ce qu'ils ont pensé d'un livre qu'ils ont lu, les deux vont dire « mais voilà, je l'ai trouvé super, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit l'auteur quand il a dit ceci et cela. Ah oui, mais moi aussi, la même citation, vraiment, je l'ai beaucoup aimé. Ok, pourquoi avez-vous beaucoup aimé ?» Et on ne les sait pas, et on va se rendre compte que là, ça commence à diverger. Enfin, diverger, non pas que ce n'est pas la même chose, mais on percevra des différences parce que chacun va dire ce qu'il a beaucoup aimé et ce qu'il a pensé quand l'auteur a dit ceci ou a dit cela, conformément à sa propre existence. Donc, si je mets plusieurs caméras dans la salle, j'aurai une pluralité de regards sur mes propres comportements, pensées et émotions et actions, et également, grâce à plusieurs caméras, une sur la scène, une à l'endroit même de mes yeux, et d'autres en coulisses, je vais multiplier les possibles regards et ma capacité à m'observer, à observer ce qui se passe et à quelque part me mettre dans la peau et dans les chaussures de quelqu'un d'autre pour lire le suivi émotionnel, enfin, et surtout la manière dont j'ai fonctionné dans mes pensées au point de ressentir telle émotion et d'agir de telle ou telle manière. Ça va nous permettre donc d'apprendre à attraper nos pensées au vol. Qu'est-ce que j'ai pensé à ce moment-là qui a fait que j'ai ressenti ça et que j'ai fait ça ? Qu'est-ce que j'ai... Et puis... Pourquoi ? Alors, on peut commencer déjà à travailler sur le pourquoi j'ai ressenti ceci ou cela. Mais d'abord, j'ai attrapé cette pensée. Ah, j'ai pensé ça. J'ai pensé que je suis nul. J'ai pensé que je suis bon. J'ai pensé qu'il exagérait. J'ai pensé que c'était un salaud. J'ai pensé qu'il était généreux. J'ai pensé qu'il était radin. J'ai attrapé cette pensée et avant de me demander pourquoi j'ai pensé ça, je l'attrape, j'en prends l'information sans jugement et je la mets, et je préfère vraiment travailler comme ça, par écrit. Quand je dis cette pensée, c'est parce que même si je suis conscient que nous avons de nombreuses pensées, on a parlé de 6000 pensées par jour, ce qui fait 6,5 pensées par minute, et une toutes les 9 secondes, il est possible, et de plus en plus facilement, si on travaille sur cette capacité d'observation de soi, d'aller identifier la pensée en question. Elle sera peut-être corrélée à une autre, puisqu'on a dit qu'on était sur un système constellaire seulement. Il est possible d'identifier cette pensée. C'est dans l'entraînement que vous y arriverez, donc pratiquez, 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 jusqu'à vous dire « c'est ça que j'ai pensé ». Et quand vous avez identifié votre pensée, vous pourrez commencer à comprendre la raison pour laquelle vous avez ressenti ce que vous avez ressenti. Première étape, attraper sa pensée. Quand vous avez attrapé votre pensée, vous pouvez commencer à la challenger, votre pensée. On viendra à ça plus tard. Et puis, une fois que vous l'avez attrapée, challengée, vous pouvez envisager la modifier. Et vous allez vous rendre compte que votre vie va changer. Du coup, les pensées négatives, qui sont en traitement automatique, quand je dis négatives, c'est les pensées qui ont des effets négatifs, parce qu'il n'y a pas de pensée négative en soi. Les pensées qui ont donc des effets négatifs, ou que nous appelons communément pensées négatives, vont commencer à se cumuler sur notre cahier, notre feuille de papier ou votre cahier de vie, si vous avez déjà un cahier de vie. Faites ce travail en commençant à attraper vos pensées. Avant d'envisager les challenger et de les modifier, attrapez vos pensées, observez-les. Alors, me pose-t-on la question de temps en temps, savoir qu'est-ce que c'est une pensée négative ou une pensée qui produit des effets négatifs ? Je vais vous donner la réponse pour que vous puissiez pratiquer l'exercice de manière aisée. Vous êtes tous en mesure de mesurer l'impact positif ou négatif de pensées que vous avez. Même si parfois on est dans la confusion, on n'est pas certain. C'est pour ça qu'on a besoin de prendre l'habitude de s'observer pour attraper ces pensées de manière à les identifier. Alors si vous avez chopé votre pensée, vous l'avez attrapée, vous l'avez en main quelque part sur votre papier, vous pouvez regarder cette pensée et vous poser la question. Est-ce que dans le court terme, cette pensée est ok, que je la trouve positive ou enrichissante, qu'elle est agréable ? Oui, super. Si sur le long terme, est-ce que cette pensée est positive, agréable et enrichissante ? Non, c'est donc une pensée à effet négatif. Si sur le court terme, elle vous apporte du bénéfice, mais pas dans le long terme, c'est une pensée négative, à effet négatif. Autre question, est-ce que sur le court terme, cette pensée m'apporte un bénéfice, qu'elle est vraiment bénéfique pour moi ? Oui. Est-ce que sur le long terme, elle est bénéfique pour moi ? Oui. C'est donc une pensée à effet positif ou une pensée positive. Troisième question, est-ce que sur le court terme, cette pensée est agréable ou positive pour moi ? Non. Est-ce que sur le long terme, cette pensée est positive ou agréable pour moi ? Oui. C'est donc une pensée à effet positif ou une pensée positive. Ce dernier compartiment est généralement gênant parce qu'on a horreur des pensées qui sont désagréables sur le moment. On a horreur des situations que l'on trouve pas bénéfiques. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas bénéfique sur le moment qu'elle est à catégoriser dans les effets négatifs. Si elle est désagréable et non bénéfique sur le moment, mais qu'elle est bénéfique sur le long terme, elle rentre dans les pensées positives à effet positif. Prenez le temps, posez-vous, réfléchissez, observez-vous, attrapez vos pensées et on se retrouve la semaine prochaine pour continuer vers challenger, modifier vos pensées et comment s'y prendre pour les modifier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. Bye bye. Vous avez aimé ce podcast et vous avez appris quelque chose. Alors s'il vous plaît, pratiquez maintenant ce que vous avez appris, ne reportez pas, surtout qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Je compte sur vos étoiles, vos commentaires, vos avis sur les réseaux sociaux, Apple Podcast, Google Podcast ou toute autre application podcast que vous utilisez, pour mettre vos commentaires, vos 5 étoiles et justifier les raisons pour lesquelles vous avez mis 5 étoiles, parce que c'est intéressant et puis comme je vous ai dit, je vais les mentionner de temps en temps dans les podcasts. D'ailleurs, je m'engage à le faire pour la semaine prochaine.